Un adolescent, livre 2, chapitre 1er. 1. Deux mois ont passé. Que le lecteur ne s'inquiète, l'exposé suivant comblera la lacune. Mais, comme j'inscrivais au début de mon journal la date du 19 septembre, je veux inscrire à cette place celle du 15 novembre, elle aussi mémorable. Qui m'a vu il y a deux mois aurait peine à me reconnaître. Cet éminent tailleur français que m'avait recommandé Versilov m'a fait un complet. D'une coupe pas encore assez pure au gré d'un élégant de ma sorte. Depuis, deux taylors encore plus renommés m'habillent. Et même, ils me font crédit. J'ai aussi un compte dans un cabaret à la mode. Mais je manque de hardiesse. Dès que j'ai de l'argent, je paie, bien que je sache que c'est de mauvais ton. Je suis au mieux avec un coiffeur parisien de la perspective Nievski, et son répertoire d'anecdotes m'est déjà familier. Au contact de ses fers, je me perfectionne dans la langue française. J'ai un traîneau de grande remise. Mathieu, mon cocher, gouverne avec prestance un bec clair aux jambes. Pourtant, tout ne va pas à souhait. Aujourd'hui, 19 novembre, il y a trois jours que le froid pince et ma pelisse, un cadeau de Versilov, est vieille. On ne m'en donnerait pas 25 roubles. Il sied que j'en achète une. Or, ma bourse est à sec. Il me faut de l'argent pour ce soir, coûte que coûte. Sinon, je suis pané et fichu. Tel est mon nouveau vocabulaire. Eh quoi, ces imbéciles préoccupations de luxe et de parade, comment, si vite, ai-je pu tout oublier, me transformer si méconnaissablement? Lecteur, je commence ici l'histoire de ma honte. Coupable, je serai pour moi un juge sévère. Pourtant, pendant ces deux mois, je fus presque heureux. Quand sursautait ma conscience, je me disais « Est-ce donc si grave ? Bah, je me tirerai d'affaire. Mon idée est d'une solidité à toute épreuve. Je peux sans danger faire des gambades au bord de l'abîme. » Il est peut-être dommage qu'elle soit si solide. Avec moins de confiance en elle, je serais plus prudent et irai plus vite. Je continuais à occuper mon petit logis. À l'occuper, non à y vivre. Ma malle, ma valise et de menus objets y étaient entreposés. Mais mon domicile était plutôt chez le jeune prince Serge Sokolski. Comment ce mode de vivre s'était-il établi? Nous verrons cela plus tard. Revenons à mon logis personnel. C'est là que, d'abord, je revis mon père. 2. Il s'y présenta pour la première fois trois jours après notre séparation. J'étais absent, il s'installa pour m'attendre. Quand j'ouvris la porte, mes yeux se voilèrent, mon cœur battit. Je m'arrêtai au seuil. Par bonheur, il était assis avec mon logeur, lequel, par bonté d'âme, venait tenir compagnie à tout visiteur obligé de poser. C'était un modeste fonctionnaire, âgé de 40 ans, grêlé comme une passoire, très jaune, muni d'une femme phtisique et d'un enfant souffreteux. Caractère doux, communicatif et assez délicat. Je me réjouis qu'il fût là. Seul à seul avec Versilov, qu'aurais-je su dire? Durant ces trois jours, j'avais eu le sentiment que Versilov ferait le premier pas. Quant à moi, j'étais bien résolu à ne prendre en l'espèce aucune initiative. Et cela, non par orgueil, précisément par amour pour lui, par une sorte de jalousie d'amour. Je m'exprime mal, mais le lecteur a déjà dû se résigner à ne pas trouver d'éloquence sous ma plume. Ainsi, quoique je l'attendisse depuis trois jours, je n'imaginais pas ce que pourrait bien être une conversation entre nous qui venions de nous heurter si durement. « Ah, te voilà !» Et sans se lever, il me tendit une main amicale. « Prends place près de nous. Justement, Pierre Hippolytovitch me raconte une histoire bien intéressante. L'histoire de cette pierre qu'on voyait près de la caserne de la garde, ou peut-être près d'ici, quelque part. « Ah oui, la pierre, je sais !» répondis-je en prenant place à côté d'eux. Ils étaient assis près de la table. La chambre était exiguë, deux sagènes carrées. Je respirais lourdement. « Reprenez du commencement, Pierre Hippolytovitch !» Ils se nommaient déjà par leur prénom et patronyme. Se tournant vers moi, et d'un air contraint, car ils doutaient que je fusse un bon public, « C'est-à-dire, c'était encore sous l'empereur défunt, » commença le bonhomme. « Vous connaissez bien cette pierre, cette grosse pierre dans la rue. Pourquoi cette pierre? À quelle fin? Elle gêne, pas plus. » L'empereur avait déjà passé par là beaucoup de fois, et chaque fois, cette pierre. Enfin, ça lui déplaisait. Et en effet, une montagne au milieu de la rue, ça gâte la rue. Qu'on enlève cette pierre. Eh bien, il a dit qu'on l'enlève. Vous comprenez ce que cela signifie? Vous vous rappelez le défunt? Que faire de la pierre? Tous ont perdu la tête, et la municipalité, et un des plus grands seigneurs de cette époque que ça regardait. Voilà que l'on dit à ce personnage, ça coûtera 15 000 roubles, pas un copec de moins. Comment 15 000? Quelle bêtise! Au commencement, les Anglais voulaient mettre des rails, poser la pierre sur les rails et l'emporter avec une machine à vapeur. Mais combien cela coûterait-il? Les chemins de fer n'existaient pas encore à cette époque, excepté celui de Pétersbourg à Tsarskoïe Selo. « Eh bien, on pouvait la scier !» interrompis-je agacé. J'avais grand honte. Cet intermède ridicule devant Versilov, mais lui, il écoutait avec un plaisir manifeste. Sans doute n'était-il pas fâché d'éluder, même ainsi, la gêne d'un tête-à-tête. « Précisément, la scier, précisément, on est tombé sur cette idée. C'est Montferrand qui construisait à cette époque la cathédrale de Saint-Isaac. La scier, dit-il, et après l'emporter. Mais qu'est-ce que cela coûtera? Ça ne coûtera rien, tout simplement scier et emporter. Non, permettez, il faut placer une machine à vapeur. » Et où emporter une pareille montagne? 10 000 roubles, dit-on, pas moins, 10 ou 12 000. Écoutez, Pierre Hippolytovitch, tout cela, c'est de la farce. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais Versilov me calma d'un signe furtif, et je vis dans son regard une si délicate expression de compassion pour le conteur que j'en fus ému. Complaisamment, je me mis à rire. Réconforté, notre homme, qui avait eu bien peur, comme toujours ces rhapsodes, qu'on l'accabla de questions, se hâta de reprendre. Juste à ce moment, s'approche un petit bourgeois, encore jeune, un type tout à fait russe, petite barbe, long cafetan, et même un peu ivre. Non, cependant, pas ivre. Et voilà ce bourgeois qui regarde marchander les Anglais et Montferrand. Et voilà ce personnage à qui l'affaire est confiée qui arrive en voiture, écoute et se fâche. Et tous, ils discutent et ne peuvent arriver à rien. Et tout à coup, il aperçoit ce petit bourgeois qui sourit, comme ça, faussement, c'est-à-dire comme ça. « En se moquant, » dit obligeamment Versilov. « Tout juste, un peu en se moquant, un sourire russe tout pur. » Le personnage, de dépit, vous savez. « Toi, barbu, qu'est-ce que tu attends ici ?»« Ah, voilà, » dit-il, « je regarde la petite pierre, Altesse. » Je crois bien que c'était le prince Souvorov, l'Italien, le descendant du grand capitaine. Pourtant, non, pas Souvorov, et c'est dommage que j'ai oublié précisément qui c'était. Mais c'était un vrai type russe, un patriote, un brave cœur russe. Eh bien, il a deviné. « Quoi ? » dit-il. « Est-ce que tu veux emporter cette pierre ? Pourquoi ris-tu ? » ? Les Anglais demandent à votre Altesse un si grand prix, parce que la bourse russe est grosse et que chez eux ils n'ont rien à manger. Que votre Altesse donne 100 roubles et demain soir nous emporterons la pierre. » Voyez-vous l'effet. Les Anglais veulent le dévorer. Montferrand rit avec un air méprisant. « Mais l'Altesse, le cœur russe, donnez-lui, dit-il, les 100 roubles. » « Mais est-ce que vraiment, dit-il, tu l'emporteras ? Nous arrangerons ça pour demain soir. Votre Altesse verra. Mais comment feras-tu ?
Ça, dit-il, si vous permettez, c'est notre secret.
Ça lui plut.
Eh bien, dit-il, donnez-lui tout ce qu'il demandera.
Et on l'a laissé. Et que pensez-vous qu'il ait fait ?
Le logeur s'arrêta et nous couva d'un regard tendre.
« Je ne sais pas, » sourit Versilov, tandis que je fronçais les sourcils.
« Voilà comment il a fait, » dit le logeur d'un air aussi triomphal que si c'était lui qui eût accompli la prouesse. Il a loué les moujiks avec des pelles, de simples pelles russes, et on se mit à creuser un trou à côté de la pierre même. Toute la nuit, on a creusé un énorme trou, juste à la mesure de la pierre. Non, un peu plus profond pourtant. Et quand on a eu fini de creuser, la pierre a perdu son équilibre. Et au moment où elle a perdu son équilibre, ils ont poussé la pierre de l'autre côté, comme ça. Oh ah ! Et la pierre est tombée dans le trou. Aussitôt, on la couvre de pierre, on piétine bien par-dessus et on sème des petits cailloux. Plus de pierre.
« Voyez-vous ça ?» dit Versilov.
Du peuple accourut en foule. Les Anglais ont deviné tout de suite. Ils étaient furieux. « C'est trop simple, ça ne compte pas. » Voilà ce qu'ils disaient. « Oui, c'est trop simple, mais vous ne l'avez tout de même pas trouvé, idiot. » Et voilà que le personnage, l'homme d'État, l'embrasse. « D'où viens-tu » dit-il.
« De la province d'Iaroslav, Excellence. Je suis tailleur de mon métier. » Et l'été, je viens dans la capitale vendre des fruits.
Eh bien, les autorités l'ont su. On lui a donné une médaille. Et il a marché partout avec la médaille autour du cou. Mais après, il est devenu ivrogne. Vous savez, le russe ne se retient pas. C'est pourquoi les étrangers nous ont toujours battus jusqu'à présent. Voilà.
Oui, sans doute, l'esprit russe, commençait Versilov.
Par fortune, la malade est là son mari. Il était temps. J'enrageais. Quant à Versilov, il était dans la jubilation.
Mon cher, quand tu es arrivé, il m'égayait déjà depuis une heure.
Sa pierre, c'est tout ce qu'il y a de plus bête dans le ramas de nos récits patriotiques. Mais comment l'interrompre ? Tu as vu toi-même, il fond de plaisir. Quant à la pierre, si je ne me trompe, elle est maintenant encore sur la place et pas le moins du monde dans un trou. Mais toute son âme a chanté dans cette histoire et il a satisfait son altruisme. Il a voulu nous donner du bonheur. Le patriotisme aussi a eu sa part. Et si son épouse ne l'avait pas requis, ton logeur nous eût raconté comment les Anglais offrirent à notre coutelier national, le sieur Zavialov, 1 million pour qu'il renonçât à apposer sa marque sur ses lames.
Je connais cette anecdote.
Qui ne l'a pas entendu raconter ?
La vision du roi de Suède commence, paraît-il, à vieillir. Mais dans ma jeunesse, on ressassait cette anecdote avec acharnement. À un endroit du récit, la voix de l'orateur devenait toujours lointaine. Sur le commandant Bachoutzi, il y a aussi une végétation d'anecdotes. Ces gens aiment beaucoup les anecdotes de cour. Les historiettes sur Tchernychev, le ministre du règne passé, pullulent. On y voit par quel maquillage ce septuagénaire s'était fait le masque d'un homme de 30 ans.
Il y a ici un terrible réaliste, un vieux grognon, qui, dès que Pierre Hippolytovitch entame une histoire, s'ingénie à le contredire et le confondre. De terreur, et aussi pour que l'autre consente parfois à l'écouter en silence. Pierre Hippolytovitch le sert comme un esclave. Autre type fâcheux, et beaucoup plus fâcheux que le premier. Celui-ci est, à sa façon, un enchanteur. Laisse-moi mentir et tu verras comme ce sera beau. Celui dont tu me parles maintenant est tout hypocondrie et prose.
« Non, je ne te permettrai pas de mentir. »«
Où ? Quand ? En quelle année ?»«
En un mot, c'est un homme sans cœur. »«
Mon ami, permets toujours que l'on mente un peu. C'est si innocent. »«
Même, permets que l'on mente beaucoup. »«
D'abord, ça montrera ta délicatesse. »« Et secondo, à la faveur de ta tolérance, on te permettra aussi de mentir. »« Double et précieux avantage. Que diable ! Il faut aimer son prochain. Mais il est temps que je parte. » Il se leva. « Tu es fort bien installé. Je dirai à Sophie Andreïevna et à ta sœur ma visite et que je t'ai trouvé en bonne santé. Au revoir, mon cher. » Comment ? C'était tout ? Qu'avais-je besoin de ces bavardages ? J'attendais d'autres mots, des mots essentiels. Et pourtant, je devais convenir que tout s'était passé comme il était à prévoir. Bougeoir à la main, je l'accompagnais dans l'escalier. Le logeur parut, mais sans que Versilov vît mon geste, je le poussai sévèrement. Il me regarda, étonné, s'éclipsa. « Ces escaliers !» disait Versilov. Et il émit à leur sujet quelques considérations pâteuses, pour dire quelque chose, et certainement pour empêcher, par cet artifice, que moi aussi je dise quelque chose. Puis, « Allons, maintenant je m'y reconnais. Tout va bien. Ne descends pas davantage, tu vas t'enrhumer. » Mais je ne rebroussais pas chemin. « Je vous ai attendu ces 3 jours. » J'avais dit cela comme malgré moi. J'étouffais. « Merci, mon cher. » « Je savais que vous viendriez. » « Et moi, je savais que tu savais que je viendrais. » « Merci, mon cher. » Il se tut. Nous arrivions à la porte de la rue et j'étais toujours derrière lui. Il ouvrit la porte, un courant d'air éteignit la bougie. Dans l'obscurité, je lui saisis la main. Il tressaillit, mais se tut. Et tout d'un coup, je lui baisai la main. Je lui baisai la main plusieurs fois, beaucoup de fois. Il dit « Mon cher petit, mais pourquoi m'aimes-tu tant ?» Sa voix tremblait. Quelque chose y résonnait qui m'était nouveau. Il me semblait que ce n'était pas lui qui parla. Je voulais répondre, mais ne pus, et précipitamment grimper mes 3 étages. Lui avait dû rester à la même place. C'est seulement quand je fus arrivée à ma chambre que j'entendis se refermer la porte de la rue. Je donnai un tour de clé, et sans rallumer la bougie, je me jetai sur mon lit, le visage dans l'oreiller, et pleurais. C'était la première fois que je pleurais depuis la pension Touchard. Je pleurais à sanglots, et j'étais si heureux. 3. De cette scène dans les ténèbres, il n'a jamais été question entre nous. 3 jours après, nous nous étions rencontrés de nouveau, et tout s'était passé comme si elle n'eût été qu'un rêve. Et même je fus grossier. Cette deuxième entrevue eut lieu dans ma chambre, comme la première. En effet, malgré mon désir de voir ma mère, je n'avais pas rendu à Versilov sa visite. Pendant 2 mois, nos conversations se maintinrent stérilement dans la théorie et les généralités. Nous mettions un soin jaloux à éviter ce qui était essentiel ou topique. Je ne parlais ni de ma mère ou de Lise. J'allais les voir 1 fois par semaine, ni de moi-même. Ce mutisme sur tout ce qui se rattachait à mon histoire, provenait-il de la honte qu'elle m'inspirait ou de ma bêtise ? De celle-ci plutôt, car la honte, elle, peut à la rigueur se dompter. Dans mes rapports avec Versilov, je me montrais volontiers rêche et presque agressif. Lui, son ton habituel était de fine raillerie, quoique toujours très tendre, au fond. Généralement, il venait me voir dans la soirée. Il s'asseyait et s'attardait en causerie. Il lui plaisait de deviser avec le logeur, faiblesse qui ne laissait pas de m'agacer les nerfs. J'étais souvent très émue de lire dans ses yeux une sorte d'inquiétude quand il entrait chez moi. « Est-ce que je te gêne ? Dis un mot, je m'en irai. » Un soir de ces temps derniers, je venais de me mettre en grand appareil pour aller prendre le prince Serge, je dirai plus tard où nous devions aller. Versilov entra et, sans remarquer que j'étais sur le point de sortir, s'installa. Comme par un fait exprès, il parla du logeur. Je sursautai. « Que le diable emporte !»« Ah, mon cher, » dit-il en se levant, « mais je vois que tu veux sortir, et moi qui t'en empêchais. Pardonne-moi, je t'en prie. » Et il se retira. Cette petite humiliation que subissait là cet homme si brillant était pour ressusciter d'un coup toute ma tendresse. Mais aussi, lui, s'il m'aimait tant, que ne m'a-t-il arrêté dans ma chute? Il voyait pourtant mon oisiveté, mes fanfaronnades, mes gaspillages. Il connaissait mon Mathieu, quoique toujours il ait refusé de prendre place dans mon traîneau. Mais non, il s'est gardé de me rien dire. Deux ou trois fois pourtant, il nous est arrivé de parler de choses essentielles. Ainsi lui demandai-je, c'était peu de temps après qu'il eût refusé l'héritage, de quoi il allait vivre. « N'importe comment, mon ami, » répondit-il avec une placidité extraordinaire. « Je sais maintenant que la petite fortune de Tatiana Pavlovna, 5 000 roubles, a été mangée à moitié par Versilov au cours de ces années dernières. Une autre fois, nous avons commencé à parler de maman. « Mon ami, » fit-il tout à coup tristement. « À diverses reprises, j'ai dit à Sophie Andreïevna, « Ma chérie, je ne te rends pas heureuse, je te ferai mourir, et je n'ai guère pitié de toi. Mais si tu meurs, je sais que je me tuerai. » Ce soir-là, il était enclin aux confidences. « En quoi penses-tu que réside ma force ? En cette faculté d'accommodation que les Russes intelligents de ma génération ont un haut degré et que j'ai à un degré éminent. Rien n'a de prise tyrannique sur moi. Je suis vivace comme un chien de garde. Je puis éprouver dans un même temps deux sentiments contradictoires et les réconcilier. » Il parlait avec tristesse, et quand même, je ne savais pas s'il était sincère. Il ne développe jamais son âme qu'à moitié, et encore. Je l'accablai alors de questions. Je me jetai sur lui comme un affamé sur le pain. Il me répondait, semblait-il, avec franchise, mais finalement dissolvait dans des aphorismes généraux le peu de notions nettes qu'il m'avait laissé acquérir. Comme je lui demandai un jour s'il se moquait de moi, il me serra la main non sans ferveur. Touchant la politique générale et les questions sociales, je ne parvenais guère à tirer de lui que des traits mi-apocalyptiques, mi-plaisants. Et à ma sommation « Enfin, que faut-il donc faire ?» Il répondait « Eh mon Dieu, que tu es pressé ! D'une façon générale, le mieux est de ne rien faire, de rester tranquille. La satisfaction n'est pas mince de n'avoir participé à rien. » « Assez ! Parlez sérieusement ! Je veux savoir ce que je dois faire, comment je dois vivre !»« Sois honnête, mon cher, ne mens jamais, ne souhaite pas de mal à ton prochain. Voir les 10 commandements. »« Tout cela est si vieux, des mots !»« Eh bien, si l'ennui t'accable, tâche d'aimer quelqu'un, ou quelque chose, ou tout simplement de t'attacher à quelque chose. » « Vous continuez à vous moquer. Et que diable voulez-vous que je fasse tout seul avec vos 10 commandements ?»« T'y conformer, sans vagabondage à travers problèmes et doutes. Alors tu seras un grand homme. »« Inconnu à tous. » »« Nul secret qui n'arrive au jour. » »« Positivement, vous plaisantez. » »« Tu veux autre chose ? Spécialise-toi. Occupe-toi de construction navale, de chicanes, de n'importe quoi. » Tu t'y absorberas et vivras dans l'oubli des balivernes. Écoutez, l'interrompis-je un jour, j'ai toujours pensé que ce que vous le dites par jeu ou par condescendance. Mais je suis tenté de croire que dans le mystère de votre être, vous êtes le fanatique de quelque idée supérieure. Vous la cachez. Peut-être en avez-vous honte ? Merci, mon cher. « Écoutez, il n'y a rien de supérieur au devoir d'être utile. Dites-moi, comment, à un moment donné, mon souci d'être utile pourra-t-il être efficace ? Je voudrais connaître votre opinion. Désignez-moi une grande idée. »« Eh bien, transformer les pierres en blé, voilà une grande idée. »« La plus grande ? Non, grande, mais secondaire. » Elle cesse d'être grande au moment où l'homme a mangé. Repu, il se retrouvera aux prises avec le « que faire ?» Vous avez parlé une fois des idées de Genève. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est, les idées de Genève ?
Les idées de Genève, c'est la vertu sans Christ, mon ami. La civilisation actuelle repose là-dessus. Longue histoire et ennuyeuse. Si nous parlions d'autre chose, ou mieux, si nous nous taisions sur autre chose.
Se taire, vous en arrivez toujours là.
Mon ami, se taire est innocent et beau.
Beau ?
Sans doute, le silence est toujours beau, et le silencieux est toujours plus beau que celui qui parle.
Oh, certes, parler comme nous faisons équivaut à se taire.
Mon cher, reprit-il en changeant de ton, je ne veux pas t'offrir une vertu bourgeoise quelconque en remplacement de tes idéales, et je ne te dis pas que le bonheur vaille mieux que l'héroïsme. Je tiens même pour l'inverse. Je t'estime précisément pour ce que, dans notre époque grise, une idée aux vives teintes peut habiter ton âme, une idée à toi. Mais il faut tout de même avoir le sens des proportions. Or, tu conçois ta vie dans un style flamboyant. Tu voudrais fouler toutes les Russies sous ton char, passer comme la foudre, laisser derrière toi les peuples bouche bée, puis disparaître dans l'anonymat des États-Unis. Il faut que je te mette en garde, car je t'aime sincèrement, mon cher. Souvent, j'orientais sur la religion nos causeries. Brouillard. À la question « Que dois-je faire ?», il me répondait comme à un bébé. « Il faut croire en Dieu, mon cher. »
« Et si je ne crois pas à tout cela ? »
criai-je coléreusement.
« C'est très bien, mon cher. »
« Et comment, bien ?»
Excellent indice. Notre athée russe, quand c'est un athée authentique et qu'il est un peu intelligent, est bien le meilleur fils du monde. Il se conduit galamment avec Dieu, car il est bon, et il est bon parce qu'il est infiniment content d'être athée. Nos athées sont des gens très respectables et au plus haut degré bien pensants. Ils sont, on peut dire, les soutiens de la patrie. C'était quelque chose, mais peu. Une fois, il fut plus explicite et ne laissa pas de m'étonner, étant donné ses histoires de piété et de pénitence dont m'était venu l'écho.
« Mon ami, aimer les hommes tels qu'ils sont, c'est impossible. » Et cependant, il le faut. En conséquence, fais-leur le bien en te bouchant le nez et en fermant les yeux. Cette formalité-ci est indispensable. Supporte patiemment le mal qu'ils te font, te souvenant que toi aussi es un homme. Ce qui n'empêche pas que tu doives leur être sévère si tu es un peu plus intelligent que ton milieu. D'essence, les hommes sont vils, et aiment à aimer par crainte. Ne te laisse pas empaumer par un tel amour, et ne cesse pas de mépriser. Quelque part, dans le Coran, Allah prescrit aux prophètes de regarder les méchants comme des souris, de leur faire le bien et de prendre le pas sur eux. Il sied de mépriser les hommes, même quand ils sont bons, parce que le plus souvent, précisément dans ce cas, ils sont mauvais encore. Honnête ou non, quelqu'un d'un peu intelligent ne peut pas vivre s'il ne méprise pas. Aimer son prochain et ne pas le mépriser, c'est impossible. Selon moi, pèse sur l'homme l'impossibilité physique d'aimer son prochain. Les mots déçoivent. Par amour de l'humanité, tu dois entendre l'amour de cette humanité que tu as créée en ton âme et qui ne se réalisera jamais.
Jamais ?
Mon ami, on a omis de me consulter en temps utile, touchant la création du monde. Il est donc naturel que je me permette d'avoir mon opinion sur cette entreprise.
Et c'est vous qu'on appelle le fervent chrétien, le prédicateur, le pénitent?
Et qui m'appelle ainsi?
Je lui répétai les racontars. Il écouta attentivement et suspendit la conversation. Elle avait lieu dans la rue. Un jour que je lui faisais un bout de conduite.
Chapitre 2 1 Ce matin du 15 novembre, je trouvai Versilov chez le prince Serge. C'est moi qui les avais remis en relation. Au surplus,
il y avait entre eux assez de points de contact. Je fais allusion aux incidents d'Ems. Le prince lui avait donné sa parole de lui verser le tiers de l'héritage. Pourquoi le tiers et non la moitié? Enfin, soit quelque 20 000 roubles. Versilov avait accueilli cette promesse sans un mot, sans un geste, n'en prenant acte que par son silence, et jamais il ne manifesta qu'il en eût gardé souvenir. Oh, nous étions alors, le prince et moi, très amis. Je faisais son éloge à Versilov, palliais ses défauts. Versilov se taisait, sourieur. S'il a des défauts, il a pour le moins autant de qualités, exclamai-je un jour. Tu exagères. À l'ordinaire, il parlait au prince plus sérieusement qu'à moi, d'une façon plus précise et moins ironique. Je ne m'en offusquais pas. Le prince était un peu borné. Lui parler à demi-mot eût été peine perdue. Il seyait même qu'on soulignât. Il était, les premiers temps, ravi de Versilov et de sa conversation, enthousiaste même, et ne me le scellait pas. Mais voilà que récemment, cette belle ardeur se calma. Et dans ses rapports avec moi, je remarquai un changement analogue. Il semblait que seules subsistassent les œuvres mortes de notre amitié. Pourtant, je continuais à accepter ses subsides. À la vérité, je ne réfléchissais pas à ce qu'il y avait de peu moral dans cette propension à ouvrir la main. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Ce matin-là, donc, chez le prince qui écoutait en marchant de long en large, je trouvai Versilov, qui, assis, achevait une tirade. Versilov réussissait presque toujours à émouvoir le prince. Celui-ci était impressionnable jusqu'à la naïveté, ce qui me paraissait d'un bais jaune. À ma vue, il s'arrêta, et son visage eut une légère crispation nerveuse. Cependant, il me tendit poliment la main. Versilov inclina la tête sans s'interrompre. Je m'allongeai sur le divan. Pendant que j'y pense, je note que le prince vivait dans ce même appartement où il m'avait reçu la première fois. Il l'occupait presque tout entier, Madame Stolbeyev étant repartie après un mois de séjour. 2. Il causait de la noblesse. Malgré ses airs de progressiste, le prince était entiché de son titre. D'où, dans une certaine mesure, ses emprunts, ses prodigalités et ses dettes. Honneur implique devoir, et en devient synonyme. Qu'un ordre prédomine, la notion de l'honneur tend à s'y localiser, s'y exalte et cimente l'État. Mais ceux qui n'appartiennent pas à cet ordre souffrent, ou se l'imaginent. On leur confère des droits, et le patriciat s'affaisse dans la masse. Toutefois, une aristocratie dépourvue de privilèges se perpétuerait encore en conservatoire de l'honneur, de la haute culture et de l'idée supérieure, si, au lieu d'être à peine entrebâillée comme chez nous, elle s'ouvrait large à tout homme qui puisse, à bon escient, se targuer de magnanimité, de courage, de génie. Le prince montra les dents. « Quelle absurdité ! Ma parole, il s'agit là d'une loge maçonnique quelconque. Je ne sais pas comment vous vous représentez la franc-maçonnerie, mais ce que j'ai dit était sans doute prématuré, puisque vous n'y souscrivez pas. La grande idée... Mais vous qui aimez tant d'employer les mots « la grande idée », « l'idée force », définissez-les donc !» Vraiment, je ne sais comment vous répondre à cela, mon cher prince, sourit Versilov. Si je ne vous répondais pas, une grande idée, c'est souvent un sentiment qui reste latent, n'ayant pas encore trouvé sa formule, mais d'où la vraie non artificielle, découle. Et cette vraie vie, selon vous, c'est... interrogea le prince d'une voix acrimonieuse. « Je ne le sais pas non plus, prince. J'imagine que ce doit être quelque chose de très simple, de très ordinaire, et qui, humblement, nous sollicite tous les jours sans qu'on le daigne remarquer. C'est vague. Quant à moi, je voulais tout simplement dire que votre idée sur la noblesse, en est la négation même.
Peu, si vous y tenez, la noblesse n'existera peut-être jamais chez nous.
Et quand on commence à parler, on développe,
sentencia le prince en consultant la pendule.
Versilov se leva, prit son chapeau. Développer ? Non, j'aime parler sans développement. Et, n'est-ce pas curieux, presque toujours, quand il m'arrive de développer une idée en quoi je crois, l'exposé n'est pas terminé que ma foi a déjà faibli. Il ne me plaît pas pour le moment de tenter l'épreuve. Au revoir, cher prince, je m'attarde chez vous impardonnablement.
Il sortit. Le prince le reconduisit, courtois. Mais je me sentais offensé.
Quand il reparut, « Pourquoi froncez-vous les sourcils ? » m'interpella-t-il sans me regarder en face.
« Je me formalise d'un si étrange changement dans vos manières envers moi et envers Versilov. »
Commençai-je d'un timbre tremblant. Sans doute, Versilov a parlé un moment d'une façon qui pouvait paraître réactionnaire, mais il s'est repris, et dans ses paroles, il y avait peut-être une pensée point négligeable. « Mais vous n'avez pas compris, tout simplement, et... »«
Tout simplement, j'entends qu'on ne me considère pas comme un gamin, et qu'on ne vienne pas à domicile me faire la leçon. »«
Prince, ces paroles... »«
Laissons-là les gestes de théâtre, l'un et l'autre. Je sais que ce que je fais est lâche, que je suis prodigue, joueur, qui sait ?»«
Voleur, oui, voleur, puisque je perds au jeu l'argent de la famille. »
Mais je ne souffrirai pas de juge à mes actes. Pour cet office, je suffis. Et d'ailleurs, au diable ces équivoques! S'il avait quelque chose à me dire, il n'avait qu'à me le dire nettement et sans tant de fadaise. Mais pour me dire quelque chose, il faut en avoir le droit. Il faut soi-même être honnête.
Primo, n'ayant pas entendu le début de la conversation, j'ignore au juste de quoi vous parliez.
Secondo, « en quoi Versilov est-il malhonnête? Permettez que je vous le demande. »«
Assez, je vous en prie, assez. Vous m'avez demandé hier 300 roubles. Les voici. »
Il les posa sur la table, s'assit dans le fauteuil, s'y renversa, croisa les jambes.
« Je ne sais, murmurai-je. Il se peut que je vous ai demandé de l'argent et que j'en ai grand besoin. Mais... du moment que vous me parlez sur ce ton...
Laissez le ton. Si j'ai dit quelque chose de vif, excusez-moi.
Ah, je ne songeais guère à vous offenser. J'ai reçu une lettre de Moscou. Mon petit frère, Sacha, est mort il y a 4 jours. Mon père, comme vous le savez, est paralysé depuis 2 ans. J'apprends que son état empire, qu'il ne peut prononcer un mot, qu'il ne reconnaît personne. Ils se sont réjouis là-bas de l'héritage. Ils veulent emmener le père à l'étranger. Mais le docteur m'écrit qu'il ne vivra pas 2 semaines encore. Ainsi, nous restons, ma mère, ma sœur et moi. Autant dire que je reste seule. Et cet héritage, mieux eût valu qu'il ne vînt pas. Et voilà précisément la communication que j'avais à vous faire. Sur cet héritage, j'ai promis 20 000 roubles à André Petrovitch. Or, imaginez-vous qu'à cause des formalités, nous n'avons pas encore été envoyés en possession de cet héritage. Cependant, ces 3 dernières semaines, j'ai perdu beaucoup d'argent, et j'en ai emprunté un joli taux à cette canaille de Stiebielkov. Je viens de vous donner mes derniers roubles.
Oh, prince, s'il en est ainsi...
Non, non, il ne s'agit pas de cela. Stiebielkov m'apportera de l'argent aujourd'hui. Mais que le diable emporte ce Stiebielkov! Je l'ai supplié de me trouver 10 000 roubles, que je remettrai comme à compte à André Petrovitch. Cette promesse que je lui ai faite de lui donner le tiers de l'héritage me tourmente, me torture. Il a ma parole et je la dois tenir. Ah, je vous jure qu'il me tarde d'être libéré de mes obligations. Elles me sont lourdes, insupportables. Et cette liaison m'entraîne. Voir André Petrovitch m'est pénible, parce que je ne puis le regarder dans les yeux. Pourquoi abuse-t-il de ma fausse situation ?
De quoi abuse-t-il, prince ? Dis-je étonné. A-t-il jamais fait allusion ?
Non, Évidemment, et je lui en sais gré. Mais c'est moi-même qui fais des allusions. Et enfin, je suis entraînée de plus en plus. Ce Stiebielkov. Écoutez, prince, tranquillisez-vous de grâce. Moi aussi, je me suis laissé glisser, impardonnablement, lâchement. Mais je sais que ma sottise prendra fin. Aussitôt que j'aurai gagné quelque argent, dites-moi, avec ces 300 roubles, je vous en dois, n'est-ce pas, 2500? Il me semble que je ne vous les réclame pas, récrimina-t-il. Vous dites, à Versilov, 10 000 provisoirement. J'entends que l'argent que vous me remettez en soit déduit. C'est une garantie. Et d'ailleurs, je me propose bien de vous le rendre moi-même. Mais pensez-vous que Versilov vienne chez vous à cause de l'argent? Je préférerais qu'il vînt pour cela, répondit énigmatiquement le prince. Vous parliez de je ne sais quelle liaison qui vous entraîne. Si vous faites allusion à Versilov et à moi, c'est vraiment blessant. Vous lui imputiez tout à l'heure de ne pas être tel qu'il voudrait qu'on fût. Quelle singulière logique! Sachez qu'en admettant même qu'il ne vive pas selon la vérité, ce n'est pas une raison pour qu'il lui soit interdit de propager la vérité. Propager, propager. C'est vous qui l'avez appelé le prophète des femmes en Allemagne, n'est-ce pas?
Jamais de la vie.
Stiebielkov m'a dit que c'était vous. Il a menti. Je ne donne de sobriquet à personne. Mais j'entends qu'un propagandiste de la vertu soit vertueux lui-même. Voilà ma logique. Il se peut qu'elle ne soit pas bonne. Ça m'est égal, je m'y tiens. Je veux que ce soit ainsi. Et ce sera ainsi. Et que personne, personne ne s'arroge le droit de venir me juger chez moi et me morigéner. Assez ! Cria-t-il en secouant une main protestataire. Ah, enfin ! La porte s'était ouverte. Stiebielkov. 3. Il était toujours le même, plastronnant, prétentieux et satisfait. Mais une curiosité fureteuse avivait son œil de dindon. Il semblait qu'il voulût deviner quelque chose à l'examen de nos physionomies. Mais vite son regard s'émoussa et une jovialité épaisse noya ses traits. « Tout de suite !» lui dit le prince sans le saluer, et il se mit à chercher sur son bureau les paperasses nécessaires à l'opération. Quant à moi, j'étais encore sous le coup de ces derniers mots. L'allusion à la malhonnêteté de Versilov était si claire qu'elle appelait une réplique. Or, devant Stiebielkov, il fallait surseoir. Je m'allongeai sur le divan et, avisant un livre, l'ouvris au hasard. Bielinski, tome 2. On voit que vous désirez vous instruire, fis-je d'une voix mal d'aplomb. Il était très occupé à bousculer ses papiers. Mais à mes paroles, il se tourna. « Je vous prie de laisser ce livre, » dit-il sèchement. Cela passait les bornes, du fait surtout de la présence de Stiebielkov. Et celui-ci souriait, d'un sourire rusé et lâche, et me désignait furtivement le prince. Je me détournai de ce sceau. « Ne vous fâchez pas, prince, je vous cède à l'homme de la situation, et me retire. » « C'est moi, l'homme de la situation ?» bouffonna Stiebielkov en se pointant le doigt sur la poitrine. « Oui, vous, vous êtes le personnage de premier plan, et vous le savez. »«
Non, permettez, je suis toujours le personnage de second plan. Il y a le premier homme, et il y a le second. Le premier fait quelque chose, et le deuxième prend. Alors, c'est le deuxième qui est le premier, et le premier devient le deuxième, n'est-ce pas ?»
« Il se peut, mais comme d'habitude, je ne vous comprends pas. »«
Non, permettez. En France, il y avait la Révolution, et on guillotinait tout le monde. Et venu Napoléon, il prit tout. La Révolution, c'est le premier homme. Napoléon, le deuxième. Mais alors, Napoléon est devenu le premier homme, et la Révolution, le deuxième. Vous y êtes ?»
Je ferai remarquer que cette évocation de la Révolution française correspondait à une manie qu'il avait et qui m'amusait fort. Il s'obstinait à me considérer comme un révolutionnaire.
« Allons, dit le prince.
et tous deux passèrent dans la pièce voisine. Resté seul, je décidai de lui rendre ses 300 roubles dès que Stiebielkov aurait vidé la place. Pourtant, j'en avais un besoin extrême. Pendant 10 minutes, nul bruit ne me parvint de la chambre où s'étaient retirés le prince et Stiebielkov. Tout à coup, les voix montèrent de ton. Ils parlaient en même temps, et bientôt le prince vociféra. Mais, pour annoncer quelques visites, un valet parut dans la chambre où je me tenais. Du menton, je lui indiquai la salle de la conférence. Son entrée y rétablit le silence. Le prince reparut, visage soucieux, où s'exerçait un sourire d'accueil. Le domestique se hâta vers l'antichambre, et un instant après, le visiteur entra. Hôte considérable. Je dois dire qu'en dépit qu'il en eût, le prince Serge n'appartenait pas proprement à la haute volée de Pétersbourg. D'autant plus devait-il apprécier cette visite. Première consécration de rapport pour lesquels il avait fait toutes les avances. Mais visite qui fâcheusement le prenait à l'improviste. Et je vis de quel air implorant et vexé il regarda Stiebielkov. Celui-ci ne parut point du tout saisir le sens de ce regard. Loin de disparaître, il se répandit sur le divan et il se mit à se gratter la tête. Signe d'indépendance, tout en faisant une mine sérieuse qui était impayable. Moi, sans doute, je savais me tenir en société. Mais quel fut mon étonnement quand je sentis le même regard misérable et hostile se poser sur moi. Ainsi, le prince avait honte de moi comme de Stiebielkov, et il nous mettait au même rang. Cette idée me rendit furieux. Je pris sur le divan une position plus stable et me mis à feuilleter le livre de tout à l'heure, l'air tout à fait détaché de ce qui se passait autour de moi. Stiebielkov, au contraire, ouvrit largement les yeux et prit un masque d'attention. Il estimait déférer ainsi aux règles du savoir-vivre. Une ou deux fois, le nouveau venu nous regarda l'un et l'autre. Ils échangèrent d'abord des nouvelles de leurs proches. Ce monsieur avait connu jadis la mère du prince, laquelle était de très bonne famille. À maints indices, et malgré la courtoisie et l'apparente bonhomie de ses manières, l'hôte apparaissait plein de superbe. Il considérait qu'il faisait grand honneur à quelqu'un en lui rendant visite. S'ils eussent été seul à seul, le prince, j'en suis sûr, se serait montré plus digne. Mais notre malencontreuse présence le déprimait. Il était trop aimable, et sa mine égarée trahissait son malaise. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'on annonça encore un visiteur. Et, comme par un fait exprès, un visiteur lui aussi très compromettant. Je le connaissais de vue et j'avais beaucoup entendu parler de lui. Il ne me connaissait pas. C'était un beau garçon de 23 ans, fort élégant, de bonne famille, mais de très mauvaise société. L'année précédente, il faisait partie d'un des plus aristocratiques régiments de la garde. Il avait été forcé de donner sa démission. Ses parents avaient, par voie de presse, avisé le public qu'il ne répondait pas de ses dettes. Quant à lui, il continuait à faire la fête, emprunter l'argent à 10% par mois, jouer dans les tripots et dépenser des sommes folles pour une Française à la mode. Un soir récent, il avait gagné 12 000 roubles. Il était très lié avec le prince, et souvent on les voyait installés au même tapis vert. Quand même, le prince tressaillit en le voyant. Ce jeune homme était partout comme chez lui, et laissait fluer tout ce qui lui passait par la tête. Il interrompit immédiatement leur conversation, et avant même de s'asseoir, se mit à parler du jeu de la veille. « Il me semble que vous y étiez aussi, » dit-il, s'adressant à l'hôte important. Et sur le démenti d'un geste, « Ah, pardon, je vous prenais pour quelqu'un de la bande. » Alexis Vladimirovitch Darzan, Hippolyte Alexandrovitch Nashokin, présenta très vivement le prince. Et en effet, on pouvait, malgré tout, présenter ce fils de famille. Nous, on ne nous avait pas présentés. nous restions condamnés à nous morfondre dans nos coins.
Je restais quoi?
Mais Siebielkov, maintenant, s'agitait, souriait gaiement dans la direction du jeune homme, et même menaçait de parler. La scène prenait un tour amusant.
« Je vous rencontrais souvent l'année dernière chez la comtesse Verigine, » dit Darzan.
« Je me le rappelle, mais alors vous étiez, il me semble, en uniforme, » dit doucement Nashokine.
« Oui, en uniforme, mais grâce.
Tiens, Siebielkov, que diable faites-vous là ?»«
Oui, précisément, grâce à ces messieurs, je ne suis plus en uniforme. »
Cite-t-il en montrant Siebielkov, et il sourit. Siebielkov prit sans doute ses paroles pour une amabilité, et son rire fit grelotter les vitres. Le prince rougit, et pour faire dévier la conversation, adressa une question quelconque à Nashokine. Darzan s'était approché de Siebielkov et lui parlait avec chaleur, mais à mi-voix.
« Si je ne me trompe, vous avez connu à l'étranger Catherine Nikolaïevna Ekmakov ?»
demanda au prince le monsieur Gourmet.
« Je l'ai connue. On dit qu'elle épouse le baron Bioring. »«
Autant dire que c'est fait !» cria Darzan.
« Vous, savez-vous cela de source autorisée ?» demanda à Nashokine le prince, manifestement ému.
« On me l'a dit. » Et il me semble que ce sujet défraye déjà la chronique. Cependant, je ne sais rien de positif.
« Aucun doute à avoir, » interrompit Darzan.
« Dubassov m'a parlé de ça hier. Il est toujours le premier à connaître les nouvelles de ce genre. Et le prince aussi devait savoir à quoi s'en tenir. »
Nashokine attendit que Darzan eût fini, puis s'adressant de nouveau au prince.
« Maintenant, on la voit rarement dans le monde. »
« Le mois dernier, son père était malade, » expliqua sèchement le prince.
« Il paraît que c'est une dame à aventure, » fit tout à coup Darzan.
Je me dressai. « J'ai l'honneur de connaître personnellement Catherine Nikolaïevna. Je crois de mon devoir de témoigner que tous ces traits scandaleux sont d'infâmes calomnies, inventées par ceux qui ont essayé et n'ont pas réussi. »
Sur cette péroraison imbécile, je me tus, haussé sur mes ergots et regardant mes auditeurs avec un visage enflammé. Ils se retournèrent vers moi, Siebielkov éclata de rire, Darzan était ébahi.
« Arkad Makarovitch Dolgorouki, » dit le prince à Darzan en me désignant d'un geste découragé.
« Ah, croyez, prince, » me dit Darzan. « Je n'ai rien inventé. S'il y a des bruits qui courent, ce n'est certes pas moi qui leur ai lâché la bride. »«
Eh, ce n'est pas à vous que je parle, » répliquai-je.
Mais que Darzan m'eût donné du « prince », cela avait déchaîné le rire de Siebielkov. Toujours ce nom infernal de Dolgorouki. Et pour la première fois de la vie, j'eus la sottise. J'en rougis encore. De ne pas proclamer que j'étais Dolgorouki tout court. Darzan promenait un regard étonné, de Siebielkov mugissant à moi qui restait là tout pantois. Et sans transition, interpellant le prince Serge, « Quel joli minois je viens de rencontrer dans l'escalier !»«
Vraiment ? Je ne sais pas, » répondit le prince en rougissant.
« Qui donc le saura ? » ricana Darzan.
« Cependant, c'est... ce pourrait être... balbutia le prince.
« Oui, précisément, c'était sa sœur, Elisabeth Makarovna, » émit Siebielkov en me désignant.
« Moi aussi, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. »«
Ah, en effet, » approuva le prince, mais cette fois d'un air calme. « Ce doit être Elisabeth Makarovna. » L'amie d'Anna Théodorovna Stolbeyev, chez qui je vis maintenant. Sans doute a-t-elle fait aujourd'hui une visite à Daria Onésimovna, à qui Anna Théodorovna, en partant, a confié la maison.
C'était exact. Cette Daria Onésimovna était la mère de la pauvre Olia, dont j'ai dit la fin lugubre.
Tatiana Pavlovna, qui l'avait d'abord recueillie, l'avait dirigée sur Madame Stolbeyev. Je savais fort bien que Lise voyait Madame Stolbeyev, et de temps en temps faisait une visite à Daria Onésimovna, que tous nous aimions. Malgré le commentaire du prince, j'étais fort déconcertée. Par bonheur, Natchokine se levait pour partir. Un instant après, Darzan prit congé à son tour, non sans avoir donné au prince rendez-vous pour le lendemain dans quelques tripots. Il m'avait à peine salué. Dès que nous fûmes seuls, Siebielkov sauta sur ses pieds, s'arrêta au milieu de la chambre, puis levant le doigt. « La semaine dernière, ce gaillard a souscrit un billet à ordre, sur lequel il a mis lui-même l'endo d'Avrianov. Le billet existe, seulement ce n'est pas admis, c'est criminel. 8 000 Et sans doute vous avez chez vous ce billet ?»«
Chez moi, la banque. Chez moi, le monde-piété. Mais pas le billet. Vous savez ce que c'est, à Paris, le monde-piété. C'est le pain pour les pauvres. »
Chez moi, le monde-piété. »
Le prince qui rentrait dans la chambre s'arrêta et brutalement. « Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous resté ?»«
Ah !» fit Siebielkov en clignant des yeux. « Quoi donc? Est-ce que... »«
Non, non et non !» cria le prince en frappant du pied. « Je vous dis !»«
Ah, si c'est comme ça, alors c'est comme ça. Seulement, ça ne se passera pas comme ça. »
Tête et dos courbés, il sortit. Le prince accompagna sa retraite d'un
« Sachez, monsieur, que je ne vous crains pas. »
Il était très énervé. Il voulait s'asseoir, mais s'avisant de ma présence, il resta debout et son regard exprimait
« Eh bien, et toi, pourquoi restes-tu ici ?»«
Moi, prince, commençai-je. Vraiment, je n'ai pas le temps, Arkad Makarovitch. Il faut que je sorte. »
« Un moment, prince, j'ai à vous dire une chose très importante. Et d'abord, reprenez vos 300 roubles. »«
Qu'est-ce qu'il y a encore ?»«
Tout ce qui s'est passé et ce que vous avez dit de Versilov. Et enfin, votre ton. En un mot, je ne puis accepter. »«
Pourtant, un mois entier, vous avez accepté. »
Il s'assit sur une chaise. J'étais debout près de la table. D'une main, je froissais Bielinski. De l'autre, je tenais mon chapeau. J'avais d'autres sentiments. Aujourd'hui, je ne puis pas.
Tout simplement, vous n'avez pas réussi à vous signaler, et c'est pourquoi vous vous fâchez. Je vous prierai de laisser ce livre.
Que signifie « vous n'avez pas réussi à vous signaler » ? Et comment avez-vous pu, devant ces autres, me traiter presque comme Siebielkov ?
Ah, voilà donc le point délicat. Sourit-il ironiquement. Et de plus, vous étiez confus que Darzan vous eût appelé prince.
Je ne comprends pas votre titre de prince. Je ne me baisserai même pas pour le ramasser.
On sait, on sait. Est-ce assez ridicule, votre sortie furieuse en faveur de Madame Akhmakov?
Laissez ce livre.
Que signifie?
Laissez ce livre! Hurla-t-il en se dressant à demi comme pour me sauter à la gorge.
« Voilà qui est trop fort. Je m'en vais. »
Je n'avais pas encore traversé le salon qu'il me criait de son cabinet.
« Arkad Makarovitch, revenez! Revenez! Revenez immédiatement !»
Et comme je ne m'arrêtais pas, il me rejoignit, m'attrapa par le bras et m'entraîna dans le cabinet. Je ne résistais pas.
« Prenez !» dit-il, pâle d'émotion, en me tendant les 300 roubles que j'avais jetés.
« Prenez, il faut que vous preniez. Autrement, nous, autrement... »«
Prince, comment voulez-vous ? » ?»«
Eh bien, quoi, je vous demande pardon, là. Pardonnez-moi. » »«
Prince, je vous aimais, et si vous... »
Je pris, ses lèvres tremblaient.
« Je vois, prince, que ce drôle vous a terriblement énervé, mais je ne prendrai que si nous nous embrassons, comme à la fin des querelles passées. »«
En voilà des tendresses !» marmonna-t-il en souriant, confus. Et il s'inclina, m'embrassa. Je tressaillis. Dans son visage, je lisais nettement une expression de dégoût. Au moins, vous a-t-il apporté de l'argent ?
Eh, qu'importe. Oui, il en a apporté.
Prince, nous étions amis. Et enfin, Versilov...
Bien, bien.
Et enfin, vraiment, ces 300 roubles, je ne sais encore si...
Je les tenais à la main.
Prenez, prenez, sourit-il de nouveau, mais d'un sourire qui luisait mauvaisement.
Je les pris, parce que je l'aimais.
Chapitre 3. 1. Il n'était pas encore une heure après-midi quand je quittai le prince. Je me dirigeais...
Devinera-t-on chez qui ?
Chez Stiebielkov. J'avais reçu de lui la veille une lettre assez énigmatique où il me priait d'être chez lui à 2 heures pour communication de choses très intéressantes. Or, chez le prince, il n'avait fait nulle allusion à cette lettre, discrétion qui m'intriguait. Que pouvait-il bien y avoir de commun entre nous ? À la vérité, je m'étais adressée à lui 15 jours avant en vue d'un emprunt. Mais, aux premières difficultés touchant les conditions de l'affaire, sourd à ses objurgations, j'avais fait claquer la porte entre nous et avais eu recours aux finances du prince Serge. Stiebielkov vivait dans un hôtel particulier. Beaux meubles, domestiques des deux sexes, gouvernantes mûres. J'entrais avec colère. « Mon cher, commençai-je, que signifie cette lettre ? Je n'admets pas de correspondance entre moi et vous. Et d'abord, pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure de quoi il s'agissait ? Vous m'aviez sous la main. Et vous, pourquoi vous êtes-vous tu aussi et n'avez-vous rien demandé ? » me dit-il avec un sourire satisfait.
« Parce que ce n'est pas moi qui ai besoin de vous, mais vous de moi.
Alors, pourquoi êtes-vous venu chez moi ? Fit-il en se trémoussant de plaisir. Je fis un pas vers la porte, mais il me retint par l'épaule.
« Non, non, je plaisantais.
Une affaire très importante, vous verrez vous-même. » Nous nous assîmes l'un en face de l'autre à son vaste bureau. Il sourit finement et leva le doigt. « S'il vous plaît, sans faux fuyant, ambages et allégories, et surtout sans lever le doigt. Droit au but, sinon... « Je m'en vais, » criai-je.
« Vous êtes fier, »
prononça-t-il en se penchant vers moi et en fronçant son front de rides circonflexes.
« Avec vous, il le faut. »«
Vous avez pris aujourd'hui 300 roubles chez le prince. J'ai de l'argent, le mien est meilleur. »«
D'où savez-vous que j'ai emprunté ?» m'étonnai-je. « Est-ce lui qui vous l'a dit ?»«
Oui, il me l'a dit. » « Mais ne vous inquiétez pas, c'était comme ça, par hasard, pas exprès. Et pourtant, il n'était pas nécessaire que vous vous adressiez à lui. Aux amis, je prête de grosses sommes. »«
Est-ce que le prince serait de vos amis ? Vous doit-il beaucoup ?»«
Il me doit beaucoup. »«
Il vous paiera, il attend un héritage. »«
Son héritage ? À vous, je vous prêterai sans intérêt. »
« Pourquoi cette faveur ? » ricanai-je.
« Vous en êtes digne ?» De rechef, il s'inclinait vers moi et haussait l'index.
« Stiebielkov, pas de doigts, ou je file ?»«
Écoutez, il peut se marier avec Anna Andreevna. » Disant, il clignait de l'œil.
« Écoutez, Stiebielkov, la conversation devient déjà scandaleuse. Comment osez-vous prononcer le nom d'Anna Andreevna ?
« Hé, vous fâchez pas, pas d'orgueil. Attendez un peu et écoutez. Il sera toujours temps de redevenir orgueilleux. Vous connaissez Anna Andreevna ? Vous savez que le prince peut l'épouser ? » ?»«
Je n'en ai jamais parlé avec le prince. Je sais seulement que cette idée est du vieux prince Sokolski, lequel pour le moment est malade. Je n'ai aucun rôle dans cette histoire. Et maintenant, 2 renseignements. 1. Pourquoi m'avez-vous parlé de cela ? 2. Le prince vous en a-t-il parlé, à vous ?
Ce n'est pas lui qui me parle. Il ne veut rien me dire. C'est moi qui lui parle. Et il ne veut pas m'entendre. Récemment, il a crié comme un diable.
Je l'approuve.
le vieux prince Sokolski dotera richement Anna Andreïevna. Elle lui plaît. Alors, le fiancé, prince Sokolski, me rendra tout l'argent, et il me paiera aussi la dette immatérielle.
Et en quoi vous suis-je nécessaire, moi ?
Vous êtes en relation avec eux, vous pouvez savoir tout.
Tout ? Et par exemple,
veut-il, le prince ? Veut-elle, Anna Andreïevna ? Veut-il, le vieux ?
Et vous osez me proposer d'être, moyennant finance, votre espion ?
Ne soyez pas fier, ne soyez pas fier. Encore un peu de patience. 5 minutes. Il faut que je sache, bientôt. Bientôt, parce que bientôt, ce sera peut-être déjà bien tard. Avez-vous remarqué comme il a avalé la pilule quand l'officier a parlé du baron et de Madame Akhmakov?
J'avais honte d'écouter encore, mais ma curiosité était éveillée.
Et quel espoir peut avoir le prince concernant Catherine Nikolaïevna?
Aucun, mais il est furieux.
C'est faux!
Il est furieux. Sur le point Akhmakov, il perd la partie. Seule ressource, Anna Andreïevna. Je vous donnerai 2000 roubles, sans intérêt et sans effet. Et il se renversa avec ampleur sur le dossier du fauteuil et ouvrit large les yeux.
Vous avez des fournisseurs coûteux. Il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mon argent est meilleur que le sien. Je donnerai plus de 2000.
Mais pourquoi ? Pourquoi diable ?
Pour que vous n'empêchiez pas.
Mais je ne m'occupe de rien, criai-je.
Je sais que vous vous taisez, c'est bien.
Mais trêve d'approbation, quand je désirerais que ce mariage se conclue, je continuerai à ne m'en pas mêler, ce ne serait pas convenable.
Ah, vous croyez, pas convenable, fit-il et son doigt s'érigea. Pas convenable, je comprends, mais du moins vous n'élèverez pas d'obstacle.
Il cligna des yeux effrontés, supposant chez moi quelque hypocrite calcul.
Anna Andreïevna est, en somme, une sœur pour vous.
Pas un mot là-dessus. Et d'une façon générale, veuillez vous taire en ce qui concerne Anna Andreïevna.
Plus qu'un moment. Écoutez, il recevra de l'argent et on sera tous garantis.
Proféra Stiebielkov avec importance.
Tous, tous, vous suivez?
Alors, vous pensez que j'accepterai son argent?
Vous l'acceptez déjà.
Je prends le mien.
Le vôtre?
Celui de Versilov, si vous voulez. Il doit à Versilov 20 000 roubles.
À Versilov? Non, à vous.
Mais Versilov est mon père.
Non, vous êtes Dolgoruki et pas Versilov.
C'est la même chose, assez. Et vous m'avez dérangé pour ces niaiseries.
Est-ce qu'en effet vous ne comprendriez pas?
Le faites-vous exprès ou non?
Je dis qu'on sera tous garantis. Tous, tous. Seulement il faut que vous n'empêchiez pas.
Vous êtes fou, je pense. Qu'avez-vous à ressasser votre tous?
Il garantira Versilov, quoi?
Vous n'êtes pas seul avec Versilov. Il y a encore quelqu'un. Anna Andreïevna est votre sœur, comme Elisabeth Makarovna.
Son regard se salit encore.
Il reprit. Vous ne comprenez pas?
Tant mieux, c'est bien. C'est très bien que vous ne compreniez pas.
Très louable.
Si, en effet, vous ne comprenez pas,
allez au diable avec vos calombres d'aine, fou!
Criai-je en prenant le chapeau.
Ce ne sont pas calombres d'aine.
Alors, ça va? Vous reviendrez, vous savez.
Non.
Vous reviendrez. Et alors? Alors, nous aurons une autre conversation.
2000, rappelez-vous.